Voici les deux textes liturgiques pour cette solennité de l'Épiphanie. L'épître est tiré du prophète Isaïe. Debout, sois radieuse, Jérusalem, car ta lumière se lève de la gloire du Seigneur. C'est pour toi l'aurore, tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'ombre sur les peuples. Voici sur toi l'aurore du Seigneur, et sa gloire sur toi se manifeste. Les nations marchent à ta lumière, les rois clarté ton aurore. Jette les yeux autour de toi, tous s'assemblent et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur palpitera et se dilatera, car vers toi conflueront les trésors de la mer, les biens des nations afflueront chez toi. Par des flots de chameaux, tu seras envahi par les dromadaires de Madian et d'Épha. Toutes ces foules arrivent de leur sabbat, elles apportent l'or et l'encens, et elles publient les gloires du Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Lorsque Jésus fut né à Bethléem de Juda au jour où régnait Hérode, voici que de l'Orient des mages vinrent à Jérusalem pour dire « Où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, Hérode fut troublé et toute la ville de Jérusalem avec lui. Convoquant alors tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, il leur demanda où devait naître le Christ. « À Bethléem de Juda, lui dirent-ils, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas, il s'en faut, le moindre entre les principales cités de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui doit régner sur mon peuple d'Israël. » Hérode, à cette réponse, manda secrètement les mages et se fit indiquer exactement par eux le temps où l'étoile leur était apparue. Puis il leur dit en les envoyant à Bethléem, « Allez, enfermez-vous avec soin de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, revenez me le dire pour que j'aille l'adorer à mon tour. » Les mages partirent sur cette parole du roi, et soudain, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait de nouveau pour ne plus s'arrêter qu'au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie, puis ils entrèrent dans la maison et trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Ensuite, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent comme présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et sur une réponse qu'ils reçurent en songe de ne pas revenir vers Hérode, ils s'en retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Alors, pour les retraites, attention de ne pas attendre le dernier moment, s'il vous plaît, pour vous inscrire. J'ai eu un changement de retraite pour une personne, donc j'ai de nouveau une place. Donc, la retraite d'avril, du 24 au 29 avril, est pleine. Et j'ai par contre de nouveau une place pour la retraite de juin. Toutes les autres retraites, j'ai encore quelques places. Donc, une retraite en mai du 22 au 27 mai, 12 juin au 17 juin, 2 en septembre, 4 au 9 septembre, 25 septembre au 30 septembre, et du 2 octobre au 7 octobre. Alors pour ceux qui veulent venir, j'espère que tous nos paroissiens pourront suivre les retraites au moins une fois tous les ans, une fois par an, c'est même mieux. N'attendez pas le dernier moment, sinon je ne pourrais pas vous prendre. Actuellement, je n'ai que 6 chambres de disponibles pour chaque retraite. Donc, de nouveau, j'ai une place libre pour la retraite de juin. Ce mercredi, nous aurons le cours des actes du magistère à 19h. Donc, ce cours est placé sur le YouTube, sur la chaîne Internet, vers 21h, 21h30. Donc, pour tous ceux qui habitent loin, qui ne peuvent pas venir au cours, essayez au moins d'écouter ce cours qui, je crois, est assez important. Je suis très heureux de voir la réponse de ceux qui écoutent. Il y a plus de, maintenant, on dépasse largement les 1000 personnes qui ont écouté en 2-3 mois, et au bout de déjà quelques jours, on a plus de 500 personnes qui écoutent, ce qui est bon. On a absolument besoin de connaître cet enseignement de l'Église. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine, attention, donc, lundi, mardi, mercredi, messe à 10h, jeudi, messe à 8h, vendredi et samedi, pas de messe. Donc, encore une fois, soyez patients pour la nouvelle chapelle, elle arrivera, je ne sais pas trop quand, c'est dans le secret du bon Dieu. Hein, donc, en principe, on devrait avoir une chapelle beaucoup plus grande, à peu près avec 90 places. Il faut arriver maintenant à trouver simplement les ouvriers pour faire le travail, de mettre une chape de béton. Le problème, c'est que beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'entreprises profitent de la crise actuelle pour augmenter très, 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 très énormément leurs prix, parfois les doubler. Donc on est obligé de ne pas se faire rouler, faire un petit peu attention à ce qu'on fait pour faire n'importe quoi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il y a dans cette fête de l'Épiphanie, qui est une des plus importantes fêtes de l'année, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre. Et c'est pour cela que la solennité aujourd'hui est obligatoire. Ça fait partie de ces bizarreries politiques. La fête de l'Épiphanie est au-dessus de la fête de Noël, au niveau des classifications des fêtes. C'est assez compliqué dans l'Église, il y a toute une série de classifications des fêtes. Tout à fait en haut, vous avez les doubles de première classe avec octave de premier ordre. Il n'y en a que deux. Il y a Pâques et la Pentecôte. Après, il y a un certain nombre de très grandes fêtes, dont l'Épiphanie, qui sont les doubles de première classe avec octave de deuxième ordre. Et en dessous, vous avez la fête de Noël, double de première classe avec octave de troisième ordre. Donc la fête de l'Épiphanie est au-dessus de la fête de Noël. Pourtant, la fête de Noël est fête d'obligation en France et pas la fête de l'Épiphanie, ce qui est complètement illogique. Ça fait partie de ces bizarreries à cause des concordats avec les pays. C'est pour cela que quand une ancienne fête d'obligation n'est plus faite d'obligation, l'Église oblige le dimanche suivant les prêtres à faire la solennité de la fête qui a été supprimée comme fête d'obligation. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire la solennité de l'Épiphanie. Il y a énormément de choses à prendre dans cette fête. D'abord, méditer sur l'hypocrisie des politiciens. Regardez avec Hérode. Les rois viennent de l'étranger. Ils annoncent la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi vérifie avec les textes liturgiques de l'époque, c'est-à-dire les textes des prophètes. Et les scribes disent, oui, ça a été annoncé, le roi arrive, c'est annoncé dans le prophète Isaïe. Le roi arrive. Les rois romains donnent en plus une preuve supplémentaire, l'étoile qui arrive et qui indique l'emplacement de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tout dans les mains. Tout dans les mains pour croire, ils ne croient pas. Et non seulement ils ne croient pas, mais ils cherchent à supprimer l'intrus. Hérode va donner des ordres pour tuer tous les enfants de moins de 10 ans. De moins de 2 ans, lorsqu'il s'est aperçu que les rois mages ne vont pas revenir. Alors c'est une fête extrêmement importante. Pourquoi? Parce que Épiphanie, c'est un mot grec qui veut dire manifestation. C'est Dieu qui manifeste notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifeste sa divinité au monde. Et la tradition dit, c'est le texte de l'antienne, un Magnificat des deuxièmes vêpres d'aujourd'hui. L'Église fait trois miracles aujourd'hui. Trois miracles sont illustrés, dit le texte liturgique, le jour saint que nous fêtons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages à la crèche. Premier miracle. Aujourd'hui, l'eau s'est changée en vin pour les noces de Cana. Deuxième miracle. Aujourd'hui, dans le Jourdain, le Christ a voulu se faire baptiser par Jean-Baptiste afin de nous sauver. Alléluia. Trois miracles. L'Église dit donc que c'est non pas le même jour, de la même année, bien sûr, mais trois fois un 6 janvier que notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord, a manifesté sa divinité en acceptant l'encens de la part des mages. Puis a fait son premier miracle à Cana de Galilée en changeant l'eau en vin, et enfin a été baptisé par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et à chaque fois, c'est la même manifestation, manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. En acceptant l'encens que je vous l'ai expliqué dimanche dernier, l'encens c'est le symbole de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. En acceptant l'encens, entre par les mains de la très sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ rappelle qu'il est Dieu. En faisant son premier miracle à Cana de Galilée, il va convertir complètement ses apôtres qui vont croire en lui. Et on va voir la même chose à son baptême, également un 6 janvier. Là, c'est toute la Sainte Trinité qui se manifeste. Notre Seigneur Jésus-Christ est baptisé, la colombe du Saint-Esprit vient voleter sur sa tête, Et la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. Et l'Église rajoute une quatrième épiphanie, qui n'est pas recensée ici dans l'antienne des vêpres de l'épiphanie, c'est le tabor. Au sommet du tabor, on retrouve exactement la même phrase. Notre Seigneur Jésus-Christ est monté au tabor avec ses trois apôtres préférés, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Et là, il va dévoiler une toute petite partie de sa divinité. Et les apôtres sont tellement estomaqués par ce qu'ils voient qu'ils tombent la face contre terre. Et on retrouve la même voix, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. » Alors ne faisons pas comme Hérode qui a refusé d'écouter la voix qui s'adressait à lui. Et comprenons que nous devons manifester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi. Notre Seigneur n'avait pas besoin de manifester son humanité, parce que tout le monde pouvait la voir. Il manifeste sa divinité. Et nous devons, nous aussi, en tant que catholiques, mes bien chers frères, qu'est-ce que c'est qu'un catholique ? Un catholique, c'est quelqu'un qui croit en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a la foi. La foi, toute la foi catholique est fondée justement sur cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. La foi donc justement nous aide à croire en ces vérités absolument, absolument essentielles. Et il nous faut, nous aussi, puisque nous sommes catholiques, nous avons l'obligation de manifester notre foi. Notez que notre Seigneur Jésus-Christ manifeste sa divinité sans parler. Il dit rien. Il a été de l'ange, il est couché dans la crèche et il manifeste sa divinité dans le silence. Nous devons faire la même chose. Alors comment pouvons-nous manifester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ? Je vous donne des exemples tout simples. Comment est-ce que le prêtre manifeste la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ? Comment est-ce que le prêtre manifeste la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ dans un monde qui ne veut plus de lui ? Par le port de sa soutane. Simplement quand le prêtre faire une course dans un grand magasin sans dire un mot. Simplement par le port de sa soutane, c'est la manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et croyez-moi, en face, ils l'ont parfaitement compris. C'est pas pour rien que ça commence maintenant de plus en plus en France. Il y a de nombreux évêques qui ont commencé à interdire le port de la soutane dans leur diocèse. Justement parce qu'ils ne veulent plus de ce drapeau. Et précisément parce qu'ils ne veulent plus de ce drapeau, nous devons, nous, catholiques, porter ce drapeau haut et fier. Le prêtre manifeste la divinité notre Seigneur Jésus-Christ par sa soutane. Vous devez manifester la divinité notre Seigneur Jésus-Christ par votre façon de vous comporter de la même façon. Vous n'êtes pas obligé de mettre une soutane sur le dos, bien sûr que non. Mais justement par votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter, votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre façon générale de vivre, vous devez manifester également cette vérité essentielle, que vous croyez en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et que sans son Église, personne ne peut être sauvé. Et vous pouvez faire la même chose. De même que le prêtre manifeste la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sans dire un mot, simplement parce qu'il se promène avec sa soutane, il faut voir les réflexions qu'on entend. On entend souvent des réflexions, des réflexions parfois bêtes des gens. Surtout aujourd'hui, les gens ne sont plus du tout habitués à voir un prêtre en soutane, évidemment. Et quand ils voient un prêtre en soutane, ils sont comme ça. Et on entend les petits-enfants faire des réflexions totalement incongrues. « Maman, regarde, monsieur, il a une robe !» Bon. Il faut expliquer, que la maman explique à son enfant pourquoi il a une soutane. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dès qu'on est éloigné, on voit la maman qui dit à son enfant, chut, il est un peu fou. Au lieu d'expliquer qu'il est ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est pareil. Un homme, par exemple, qui travaille dans un bureau, simplement par son comportement, un homme catholique, simplement par son comportement, peut manifester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces bureaux modernes, avec toutes les tentations du monde moderne, les secrétaires qui sont mal habillés, par exemple, et des choses comme ça, un homme catholique qui tout simplement mortifie ses regards, ne se comporte pas en flirtant avec les secrétaires comme la plupart des gens qui travaillent dans le bureau, manifeste sa foi catholique. Manifeste sa foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de prêtres en soutane qui se promènent dans la rue. On a aussi besoin de femmes catholiques qui s'habillent comme des catholiques pour manifester aussi la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous prenez dans un grand magasin, vous voyez toutes ces femmes modernes habillées comme les femmes publiques, et vous avez une femme catholique qui est habillée correctement, c'est une manifestation. Vous manifestez votre foi catholique. Vous n'avez pas besoin de mettre un grand écriteau sur votre dos, je suis catholique. Tout le monde le voit. Les gens ne sont pas fous. Ils voient ça. Et de même que le prêtre en soutane manifeste la foi catholique, un époux catholique, une épouse catholique, un enfant catholique qui tout simplement dans sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie à l'école, son comportement, s'habille, pense, agit comme un catholique, fait un travail apostolique magnifique. Et c'est peut-être le plus important. Le plus important. Pourquoi le monde a-t-il perdu la foi? On le voit très bien en France. Parce qu'avant, au Moyen-Âge, il y avait des habits religieux partout. Vous pouviez pas aller dans un hôpital, un hôtel-Dieu, une clinique de l'époque, sans avoir des religieuses encore nettes partout, qui justement manifestaient la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aviez des prêtres en soutane partout. Pourquoi croyez-vous qu'en 1965, à la fin du Concile Vatican II, la première chose qu'ont dit les évêques à leurs prêtres, vous n'êtes plus obligés de porter la soutane. Du jour au lendemain, ils ont tous enlevé ou presque. Pas pour rien. C'est parce qu'ils ne veulent plus de ce drapeau. N'oubliez pas ce qu'est la fête de l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie, c'est la fête du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux fêtes qui parlent directement du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ-Roi, bien sûr, dernier dimanche d'octobre, et la fête de l'Épiphanie. Voilà pourquoi il a reçu l'or. Il n'a pas simplement reçu l'encens qui manifeste sa divinité, aussi l'or qui manifeste sa royauté. Et la myrrhe qui manifeste qu'il est Messie souffrant. Il est homme, donc il va souffrir sur la croix. Voilà, je crois, le premier message de la fête de l'Épiphanie. Il y en a beaucoup plus. Un message de l'étoile aussi. Qu'est-ce que c'est que cette étoile? Cette étoile mystérieuse qui attire même les païens. Notez que l'étoile qui apparaît aux rois mages, qui sont encore païens, ils vont rester païens pendant un bout de temps d'ailleurs, parce qu'ils ont fait déjà un acte de foi en venant adorer notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils seront baptisés que beaucoup plus tard. C'est l'apôtre Saint Thomas. Saint Thomas apôtre, qui va les baptiser les rois mages. Et ensuite, ils vont devenir missionnaires et mourir martyrs. Saint Melchior, Saint Gaspard, Saint Balthazar. Vous allez en Allemagne, à Cologne, vous verrez à l'intérieur de la cathédrale de Cologne, il y a le sarcophage qui contient les restes de ces trois martyrs. Vous voyez, et cette étoile, justement, va manifester, les pères de l'Église nous disent, l'étoile, c'est la foi. Et la foi catholique ne peut amener qu'à un seul endroit au vrai Dieu. La foi catholique ne peut pas amener un faux Dieu. Voilà pourquoi l'étoile conduit à la crèche. Il y avait les Romains qui étaient dans le pays, ils adoraient tous les dieux de la création, tous les faux dieux qui pouvaient exister. À chaque fois qu'ils prenaient un nouveau pays, ils rajoutaient les dieux du pays à leur catalogue de dieux. Un dieu de plus, un dieu de moins, ça peut toujours servir à quelque chose, comme ils disaient. Eh bien, on voit très bien l'Église catholique représentée par cette étoile amène au vrai Dieu, pas au faux Dieu. Et donc nous devons faire la même chose. Nous aussi, nous devons suivre, mes bien chers frères, les rois mages et suivre cette étoile de la foi qui nous amène au vrai Dieu. L'étoile de la foi ne peut pas amener un faux Dieu. C'est absolument impossible. Les faux Dieux, ils pullulent dans le monde moderne. Donc attention à ça. Rappelons-nous, je dois suivre l'étoile pour arriver à Dieu. Et qu'est-ce que je fais quand j'arrive à Dieu? Je vous mets trésor, j'offre l'encens, la foi et la myrrhe. Je reconnais dans cet enfant un homme, un Dieu, un roi. Et ensuite, je rentre chez moi et je dois être une étoile. L'étoile, c'est aussi le symbole de la foi que nous devons manifester, de même que je dois manifester par mon comportement extérieur, ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter, ma foi catholique. Je dois aussi être une étoile pour les autres. J'ai été amené par l'étoile jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Je quitte notre Seigneur Jésus-Christ rempli de la grâce sanctifiante et je dois être une étoile pour les autres. Pour que les autres aient envie de me suivre. Qu'ils me voient m'agir, qu'ils me voient me comporter et qu'ils commencent à comprendre. Il se comporte comme ça, il agit comme ça, il agit comme ça, il se comporte comme ça parce qu'elle est catholique. Voilà ce dont nous avons le plus besoin, mes bien chers frères. Autre point essentiel. Cette petite phrase tout à fait à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Ils sont avertis en songe de ne pas retourner chez eux par le même chemin. Les rois mages ont compris, Hérode va essayer de tuer l'enfant. Donc ils repartent par un autre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tous les pères de l'Église expliquent de la même façon, lorsque j'ai rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai trouvé sa divinité, que j'ai offert l'or, l'encens et la myrrhe, je dois changer de comportement, je dois changer de vie. Donc je n'ai pas le droit de rentrer chez moi par le même chemin. Si j'ai dans ma vie de tous les jours un problème avec la concupiscence des yeux parce que je veux tout posséder, je dois quitter notre Seigneur Jésus-Christ après l'avoir retrouvé avec l'esprit de pauvreté. Si au contraire, je suis arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ, mais avec la concupiscence de la chair, le désir de tout toucher, je dois quitter notre Seigneur Jésus-Christ après l'avoir retrouvé avec l'esprit de chasteté. Et si je suis tenté dans ma vie de tous les jours par l'orgueil du monde moderne, eh bien, après avoir trouvé notre Seigneur Jésus-Christ et déposé mes cadeaux à ses pieds, je dois retourner chez moi avec l'esprit d'obéissance, l'esprit d'humilité. Vous voyez, comme toutes ces choses sont absolument fondamentales, il faut comprendre cela, mes bien chers frères. La fête de l'Épiphanie est une fête vraiment pour nous, pour chacun d'entre nous tous les jours. Moi aussi, je dois changer de vie, je dois changer de comportement. Alors évidemment, pour le prêtre, c'est un peu plus facile s'il a sa soutane sur le dos, parce que sa soutane lui rappelle constamment qu'il doit être un drapeau. C'est évident qu'avec une soutane sur le dos, il y a toute une série de tentations qu'on n'a pas. Le prêtre ne sera même pas tenté d'aller dans une boîte de nuit avec une soutane sur le dos, c'est du bon sens élémentaire. Vous voyez, c'est une protection, parce que c'est un drapeau. Et ce drapeau, mes bien chers frères. Alors pour vous, le drapeau sera un peu différent. Ce ne sera pas une soutane, ça sera autre chose. Mais posez-vous cette question, comment est-ce que je dois, est-ce que le bon Dieu, maintenant que j'ai retrouvé notre Seigneur Jésus-Christ, par la communion, par une bonne confession, peut-être avant la messe, je retourne chez moi, je dois avoir un comportement différent, je dois rentrer chez moi par un autre chemin. Quel est le chemin que le bon Dieu veut que j'utilise? Voilà ce qu'il faut se poser comme question. Enfin, dernier point qui me semble aussi important dans cette méditation sur la fête de l'Épiphanie, c'est le fait que nous devons impérativement offrir à notre Seigneur Jésus-Christ, j'en ai déjà parlé dimanche dernier, les trois dons à la fois. L'or, l'encens et la myrrhe. Attention. Parce que si je refuse l'or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je refuse le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je dis comme tous les modernes, « Ah oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, par les temps qui courent, on ne peut plus prêcher la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et notre Seigneur Jésus-Christ, certes, est roi au ciel, roi dans le tabernacle, roi à la sacristie, peut-être un petit peu 3-4 mètres autour de la chapelle, mais vous comprenez, monsieur l'abbé, dans la société d'aujourd'hui, on ne peut plus parler de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut plus parler de sa divinité. Si vous agissez comme ça, si vous parlez ainsi, mes bien chers frères, vous refusez de donner l'or à notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on dit, comme le monde moderne, oui, notre Seigneur Jésus-Christ, vous comprenez, c'est très bien, mais il est homme, il n'est pas vraiment Dieu. Parce que vous êtes influencé par les idées ariennes, Arius était comme ça. Notre Seigneur, c'est la première des créatures, la plus haute de toutes les créatures, mais il n'est pas Dieu. Si vous niez la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous refusez de donner l'encens. Et si vous dites, oui, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mais vous comprenez, il n'est pas possible pour Dieu de souffrir sur une croix, avec un martyr épouvantable. Donc, il n'est pas vraiment, il n'a pas vraiment souffert pendant la Passion. Sa matérialité, son humanité, c'est une apparence. Ce sont les hérésies docétistes. Et à ce moment-là, je refuse de donner à notre Seigneur Jésus-Christ la myrrhe. Dieu exige de chacun d'entre nous l'or, l'encens et la myrrhe. Et malheur à moi si je refuse un de ces trois dons. Et je donne déjà la myrrhe et l'encens à notre Seigneur Jésus-Christ. Je le reconnais comme homme souffrant sur la croix, je le reconnais comme Dieu. Mais vous comprenez, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en ai rien à faire. Je n'y crois pas. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez avec la main droite à notre Seigneur Jésus-Christ la myrrhe et l'encens, mais avec la main gauche, vous reprenez ce que vous venez juste de donner, parce que vous refusez de donner l'or. Et si je veux bien donner l'or à notre Seigneur Jésus-Christ, je veux bien donner la myrrhe, mais je refuse de reconnaître sa divinité, vous donnez avec une main l'or et la myrhe, mais vous reprenez immédiatement l'encens. Vous, par le fait que vous refusez la divinité, vous reprenez avec l'autre main les dons que vous venez de donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ exige les trois choses. Il est Dieu, il est homme, il va souffrir sur la croix et il est aussi roi. Sainte Trinité, incarnation, rédemption. Voyez, mes bien chers frères, comme c'est important, et quand on vient à la messe, quand on assiste à la messe c'est quoi? Et c'est le résumé de tout ce que je suis en train de vous expliquer actuellement. La Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire. Donc je crois en sa rédemption. Je crois que notre rédemption par sa mort sur la croix, puisque la mort est le renouvellement de la croix. Par le fait que je célèbre la Sainte Messe, quand notre Seigneur Jésus-Christ descend sur l'autel après les paroles de la consécration, que je m'agenouille devant notre Seigneur Jésus-Christ, j'affirme sa divinité. Je donne l'encens. Et là, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est entièrement centré sur le sacrifice de la messe. Pourquoi croyez-vous encore une fois qu'en 69, ils ont fait sauter la messe? Ils ont commencé à faire sauter la soutane en 65. Puis en 68, ils ont modifié les cérémonies d'ordination sacerdotale et de consécration épiscopale pour supprimer la source même du sacerdoce. Et puis immédiatement, ça a été 69, la messe nouvelle, où l'idée même du sacrifice rédempteur, du caractère propitiatoire de la messe a complètement sauté. Et ensuite, 83, avec le nouveau code de droit canonique, pour faire rentrer dans l'âme même de l'Église, faire rentrer les idées de liberté, d'égalité, de fraternité. Cette folie du monde moderne, mes bien chers frères. Vous allez me dire, même sur l'abbé, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce que vous voulez? On est tout seul. On n'est pas tout seul, mes bien chers frères. Vous n'êtes pas seul. Vous avez avec vous 260 papes. Pas mal ça. Vous avez avec vous 20 conciles écuméniques, ça ne vous suffit pas? Ah mais le dernier, on peut le mettre à la poubelle. Bon, les dernières personnes sur le siège de Pierre pour faire pareil. Mais vous avez avec vous toute l'Église. Nous avons avec nous 2000 ans de tradition, mes bien chers frères. Ce que je vous dis le dimanche, ce ne sont pas mes idées personnelles, je n'ai pas d'idées personnelles sur la foi. Je me contente de répéter ce que dit le catéchisme du Concile de Trente, ce que dit le catéchisme de Saint-Pédis, ce qu'ont enseigné tous les pères de l'Église, ce qu'a enseigné saint Thomas d'Aquin. Voilà notre rôle, mes bien chers frères. Donc demandez cette foi des apôtres, demandons cette foi, évidemment, la Sainte Famille, la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi de notre Sainte Vierge Marie, la foi de Saint Joseph. Bon, strictement parlant, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de la foi puisqu'il était Dieu. On a besoin d'avoir la foi pour croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Notre Seigneur Jésus-Christ ayant la vision béatifique, il n'avait pas besoin de la foi, strictement parlant. C'est pour une façon de parler. Donc il faut demander au bon Dieu justement cette grâce de devenir des drapeaux, mes bien chers frères. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est de porte-drapeau catholique. Porter le drapeau de la foi catholique. Alors qu'ils amènent le drapeau de la Révolution, vous amenez le drapeau de la croix. Et où se situe, où commencent toutes ces racines de la foi catholique? Avec la Sainte Messe, mes bien chers frères. La Sainte Messe qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. À chaque fois que vous assistez à la Sainte Messe, vous faites profession de foi en la Sainte Trinité, en l'incarnation et au mystère de la rédemption. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà ce que nous devons comprendre avec la fête de l'Épiphanie. Par la fête de l'Épiphanie, je dois m'agenouiller avec humilité et offrir l'or, l'encens, la myrrhe. Mon Dieu, je crois, mais augmentez ma foi. Mon Dieu, je vous aime, mais augmentez ma charité. Mon Dieu, j'espère en vous, mais augmentez l'espérance. Quand la prière, magnifique prière de Fatima, je crois, j'adore, je vous aime, mon Dieu, mais je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'aiment pas, qui n'adorent pas. Voilà ce que vous devez faire à chaque fois. Et par votre assistance à la messe, par l'agenouillement confessionnal pour demander pardon pour vos péchés, pour nos péchés avant la messe, et l'agenouillement devant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ pendant la Sainte Communion, nous renouvelons le geste des apôtres. Nous renouvelons le geste des trois rois mages. Nous faisons comme la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, lorsqu'elle a déposé l'enfant nouveau-né sur la crèche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à genoux, elle a adoré. Saint Joseph aussi, qu'ont fait tous les anges en arrivant, sont tombés à genoux en adorant. Qu'ont fait les bergers, sont tombés à genoux en adorant. Qu'ont fait les rois mages, ils s'adorent. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Rappelez-vous ce qu'a dit Saint Rémy quand il a baptisé Clovis. Courbe la tête, fier Sicambre. Ou bien montrer à Clovis qu'il venait de baptiser avec 3000 de ses soldats, pour bien montrer à Clovis qu'il devait maintenant complètement changer de vie, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Un catholique, c'est quelqu'un qui adore ce que le monde brûle. Un catholique, c'est quelqu'un qui brûle ce que le monde adore. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, venez pas me dire après, comme on entend parfois les gens modernes qui nous disent « Oui, monsieur l'abbé, vous comprenez, il faut un peu s'adapter au monde moderne. » Pas question de s'adapter au monde moderne. C'est le monde moderne qui doit s'adapter à notre Seigneur Jésus-Christ ou mourir. Vous avez le choix. Ce n'est pas du facultatif. Ah, mes bien chers frères, passons par la très sainte Vierge Marie. N'oublions pas que la tradition dit que les rois mages ont offert l'or, l'encens et la myrrhe au pied de la Sainte Vierge. Au pied de la Sainte Vierge. Et c'est la très sainte Vierge Marie qui a pris ces trois dons, l'or, l'encens et la myrrhe, qui les a offerts à son fils. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les dons directement au pied de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que la très sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces. C'est valable dans les deux sens. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne ses grâces par sa mère et nous devons passer par la mère pour atteindre le Fils. Ah, monsieur l'abbé, pourquoi on ne peut pas y aller directement? Je poserai la question au bon Dieu. Mais si avant de mourir, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Saint Jean, fils, voici votre mère, et à sa mère, femme, voici, mère, voici votre fils, ce n'est pas pour rien. Précisément parce qu'il a voulu passer par elle. Parce qu'évidemment, nous pourrions, je comprends un peu, monsieur l'abbé, donner directement les dons à notre Seigneur Jésus-Christ, je ne me sens pas tout à fait digne. Par contre, la très sainte Vierge Marie, elle est si douce, elle est si belle. Oui, alors elle joue bien. Alors on donne les dons à la très sainte Vierge Marie. Comme ce, je vais finir par ça, j'ai oublié son nom, j'ai pas le temps de vérifier historiquement. Cet émir, je crois que c'était l'émir de Grenade, au moment de sa reddition, quand il a fallu rendre les clés, au moment de l'expulsion des musulmans de la terre d'Espagne, quand il a fallu rendre les clés de la ville au roi et la reine, il les a rendues à la Vierge. Alors c'est un musulman. Il a dit, je rends les clés, mais pas au roi et à la reine, je rends les clés à la reine du ciel. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors ne nous décourageons pas, mes bien chers frères. Et au lieu de nous désoler pour tout ce qui ne va pas, remercions le bon Dieu pour ce qu'on a. Remercions le bon Dieu parce que vous avez la messe. Remercions le bon Dieu pour parce que vous avez la confession, parce que vous avez la possibilité justement d'avoir tout ça. Utilisez tous ces dons. Mes bien chers frères, c'est quand vous les aurez pu, vous comprenez l'importance de la messe, l'importance du prêtre, l'importance du sacerdoce, l'importance de la confession. Passons, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Remercions le bon Dieu. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a permis que vous et moi nous conservions la foi? Il faut se poser cette question tous les matins. Le bon Dieu a une raison, moi je ne la connais pas. Parce qu'il veut que chacun d'entre vous, même si on est une vingtaine dans cette pièce, il veut que chacun d'entre nous, nous soyons des porte-drapeaux. Soyez des porte-drapeaux de la foi catholique. Soyez des porte-drapeaux de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Soyez des porte-drapeaux de l'Église catholique en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Et à ce moment-là, bon Dieu vous bénira. Loin de nous, mes bien chers frères, loin de nous l'idée même de se décourager. Mais monsieur l'abbé, on est tellement peu nombreux. Le bon Dieu ne demande pas le nombre. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande la foi. Et tous les autres, confiés à la miséricorde du bon Dieu, combien ils étaient quand ils ont commencé? Combien il y avait d'apôtres? 12. Et un traître au milieu. Combien il y avait de disciples? 72. Et qu'une centaine de personnes, notre Seigneur Jésus-Christ les a envoyés, non pas simplement à la conquête de Jérusalem, mais à la conquête du monde entier. Beaucoup sont passés à la casserole. Ça n'a pas été facile. Et ils ont amené le monde à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont monté le monde vers Dieu, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au XIIIe siècle, on dit que le plus haut sommet de la chrétienté, c'est 1274, mort de saint Thomas d'Aquin. Et depuis, malheureusement, le démon se déchaîne. Parce qu'il a compris qu'avec le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le Moyen-Âge, c'est quoi? Le Moyen-Âge, c'est
la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ qui éclate en plein jour. Le démon ne peut pas supporter ça. Voilà pourquoi il a suscité la Renaissance dès le XIVe siècle, puis après le protestantisme, la franc-maçonnerie, la révolution 1789. Et puis comme ça ne lui suffisait pas, il fallait absolument détruire les sources mêmes de la grâce. Après, c'était Vatican II. Et qu'on ne vienne pas me dire ce qu'on entend tout le temps de la part des prêtres modernes. Mais monsieur l'abbé, ces choses-là ne peuvent plus être prêchées. Vous ne voulez plus prêcher ces choses-là, alors vous mourrez. Vous ne voulez plus prêcher ces choses-là, les gens mourront autour de vous. Regardez autour de vous ce qui se passe. La société mortifère dans laquelle nous vivons. Quelle est la solution? La solution est derrière mon dos, mes bien chers frères, dans le tabernacle. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et qu'à chaque fois que nous communions, nous devons faire cet acte de foi. Mon Dieu, je vous adore et je vous offre de nouveau l'or, l'encens et la myrrhe. L'or parce que vous êtes mon roi, la myrrhe parce que vous êtes mon Dieu souffrant, mon homme souffrant, l'homme qui va mourir sur la croix, le Messie des douleurs, et l'encens parce que vous êtes mon Dieu. Et n'oublions pas que, encore une fois, nous devons déposer tous ces dons aux pieds de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.